Merci beaucoup. Il ne reste presque plus de temps, mais on voudrait vite céder la parole au public qui voudrait poser une question ou faire... Oui,
oui. Bonjour. J'aimerais revenir sur ce passage qui m'intriguait un peu sur la fin de l'Ordalie, qui correspond donc notamment avec le concile de Latran, qui correspond aussi avec la généralisation de l'aveu. Et je me demandais s'il n'y avait pas d'une certaine façon une sorte de déplacement de cette phase d'épreuve dans la pratique, dans cette pratique de confession. Ce que voulait montrer Foucault, c'était qu'il y a la question de la vérité se pose à un certain moment dans le rapport que le sujet entretient à lui-même avec son âme. Et dans la pratique de la confession telle qu'elle intervient, c'est il y a bien l'intervention à un certain moment de Dieu en tant que lumière qui va... du fait même qu'on va dire les choses et du fait même qu'on va réagir à ce que l'on dit, exposer les vices cachés ou le diable ou la chose, ce qui tapit au fond de l'âme.
Si je peux juste dire, on va prendre deux ou trois questions maximum, on fait un petit tour et puis on répond parce qu'il reste très peu de temps et comme ça chacun qui veut parler peut s'exprimer et aller vite. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent poser une question ?
Je voudrais juste revenir un instant sur la vérité judiciaire révélée pour le jury, puisque je voudrais savoir ce que vous pensez, dans quelle mesure est-ce qu'il y a une place dans un système comme celui-là, qui est un système fondé sur l'intime conviction, pour la motivation d'une décision. Parce que ou bien je suis convaincu, ou bien je ne suis pas convaincu, et comment voulez-vous que je le motive, si c'est mon intime conviction, si c'est quelque chose qui est un peu révélé, dans la foulée de cette question, la question du recours aussi. Est-ce que une justice comme celle-là est une justice qui, suppose la motivation de décision, bien qu'on sait qu'aujourd'hui, mais est-ce qu'il n'y a pas une tension là qui me paraît assez importante, outre le fait que ça pose la question du recours, puisque l'idée du recours, c'est que j'ai une motivation que je peux attaquer. Si je n'ai que l'intime conviction, comment voulez-vous que je l'attaque ? Donc il y a là, me semble-t-il, une tension qui évidemment se sent très fortement chez nous suite à la rétaxque, mais qui est maintenant appliquée chez nous, mais quand j'en discute avec des juges en anglais, c'est quelque chose qui pour eux est encore totalement, qui relève encore d'un monde imaginaire. Ils ne connaissent pas cette jurisprudence, ils ne l'appliquent pas pour l'instant, ils devront bien le faire évidemment un jour, mais pour eux ils sont encore totalement hermétiques par rapport à ça, et c'est peut-être précisément raison d'une tension qu'il pourrait y avoir là. Et puis dans le prolongement de cette question, est-ce qu'on peut prolonger cette idée-là par rapport au rôle du juge anglais dans le débat, est-ce qu'il est créateur de droit ou pas ? Est-ce qu'il crée le droit en le disant, ou est-ce qu'il révèle un droit qui préexiste et qui est quelque part... Est-ce qu'à ce moment-là, le juge anglais, finalement, n'est pas différent du jury dans cette conception-là ?
Encore une question derrière. Bon, là, c'est la dernière, et puis comme ça, je vous laisse répondre après.
Dans la même lignée que la cour d'assises...
Attendez, je vais m'en rapprocher parce que le son ne passe pas très bien et en plus j'ai une très mauvaise audition. Donc je vais...
Alors moi, j'ai, dans le prolongement de la cour d'assises, je voudrais savoir comment vous expliquez que le détecteur de mensonges est encore dans les mêmes et que c'est une spécificité belge manifestement en ce moment. Vous avez dit qu'un aveu de fils, d'Ordalie, c'est un petit peu plus d'Ordalie, ce détecteur de mensonges. Alors j'ai une même question sur le juge populaire, j'avais une autre question. Sur l'offre de justice, on avait parlé de la justice à l'avènement du monothéisme. Je pensais à cette manifestation des enthousiastes aujourd'hui. Et je me demandais si l'offre de justice dans les prétoires répondait bien aux besoins de justice. Est-ce qu'on n'est pas dans cette justice qui est considérée par les citoyens comme étant une justice inaccessible, voilà. Et l'autre deuxième question. C'est sur l'erreur judiciaire. J'ai commencé par un texte qui disait ça, que c'est pas possible. Moi, j'ai eu la même réflexion sur l'évaluation du magistrat. Donc, c'était pas possible, puisque le magistrat était nommé à vie, indéboulonnable, il ne pouvait pas être mauvais. Donc, que fait-on d'un juge qui est mauvais et qui dit le droit ? Dit-il toujours la vérité ? Est-on toujours dans le niveau 1 de la vérité intrinsèque qui relie le rite, le rituel judiciaire et puis la personne qui est le juge qui prend en compte la
Bon,
attendez. Je vais noter les.
Choisissez, hein.
Bon, je vais peut-être commencer par le détecteur de mensonges. Il y a un malentendu sur l'appréhension de Lord Daly qui fait que le phénomène n'a pas été compris. Et ça, je passe les premières pages de mon livre à dénoncer ce genre de malentendu. Parce que effectivement, alors à ce moment-là, tout s'embrouille et on ne voit pas comment les choses marchent. Mais constamment, à l'appui d'une décision de justice, on a utilisé la divination. Hein. Alors, il y a toute une foule de procédures divinatoires qui ont été utilisées. Le bâton du juge qui est censé se planter comme le bâton du sourcier devant celui qui est coupable. L'examen du cadavre, à la limite, les empreintes digitales, d'ailleurs, relèvent aussi d'une forme de divination. Il s'agit de raisonner d'un indice connu à fait inconnu. Le sérum de vérité, c'est également une forme de divination. Je vais essayer de deviner si quelqu'un ment ou s'il a raison, etc. Bon. Alors, je ne rapproche pas du tout ça de Lord Daly, ce n'est jamais décisif en soi. Chaque fois qu'on use de la divination, on en use à titre préparatoire, avant une décision. Laquelle décision peut être la décision d'un juge d'autorité, c'est-à-dire un juge tout à fait rationnel, je décide que compte tenu des indices, un tel est coupable ou innocent, ou la décision peut d'ailleurs elle-même provenir du Lord Daly, mais Lord Daly ne se confond jamais avec un exercice de divination. Lord Daly, c'est une parole qui est validée immédiatement par le résultat d'une épreuve. Exactement comme un serment, c'est pas un exercice de divination non plus, c'est une parole proférée qui est valide pourvu qu'elle soit proférée dans des conditions de validité prédéterminées. Alors, sur le besoin de justice, là, alors, évidemment, oui, il y a une... Là, il y a une frustration permanente du justiciable à l'égard de la justice. Puis c'est un point, effectivement, sur lequel il serait très intéressant de faire des études de sociologie comparées entre pays continentaux et pays de common law, si vous voulez. Hein. Sur le continent, la frustration s'adresse à l'idée d'un juge fonctionnaire. Un juge fonctionnaire peut-il être véritablement juste? En pays de common law, tout le monde sait que des gens peuvent gagner des procès sur des mensonges. Tout le monde sait que les jurys peuvent commettre des monstruosités. Il y a des affaires d'ailleurs régulières. Régulièrement, il y a des verdicts d'innocence pour des blancs qui tabassent des noirs. Donc, exemple, l'affaire Rodney King en 1992 ou une affaire encore récente. L'affaire O.J. Simpson ou des choses comme ça. Bon, donc tout le monde sait que le jury se trompe et pourtant il y a une adhésion sociale plus forte. Ça, c'est aussi un des éléments du modèle que je suis en train de développer et qu'il faudrait prolonger. Il y a une adhésion sociale plus forte en pays de common law, à une justice de common law, alors même qu'on sait qu'elle est très aléatoire. Hein, il y a une adhésion sociale plus forte que dans les pays de civil law. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'effectivement, la force d'une religion a été conservée en pays de common law alors qu'elle ne l'a pas été dans l'Europe continentale. Mais cette force reste encore un peu mystérieuse, mais elle mériterait d'être analysée. Et alors, évaluer le magistrat, bonne question. Si le magistrat doit ressembler à Dieu, ce qu'il doit faire même en pays de droit civil, ah, donc si juger, c'est toujours une imitation dei, dont je n'ai pas eu le temps de développer ce thème que je reprends plus longuement dans mon livre, si juger c'est une imitation dei, cette imitation dei ne peut jamais que tendre à la perfection. Donc de fait, le juge est inamovible et le juge est un être présumé parfait. Il y a quelque chose qui est toujours assez amusant quand on en parle devant des juges et des avocats, c'est qu'il n'y a pas de saint juge. Hein. Personne n'est jamais devenu saint parce qu'il était juge, ou à la suite d'une prouesse accomplie dans l'œuvre de juger. Pourquoi ? Parce que c'est pas possible. On ne peut pas être parfait, on ne peut pas être parfait dans l'œuvre de juger, on ne peut pas être plus parfait que son voisin, parce que l'œuvre de justice devant tendre à la perfection, tout le monde est parfait. Hein. Alors que l'éthique de l'avocat, historiquement, se construit à partir de la figure du saint, hein, en l'occurrence de saint Yves, lequel n'est pas sensible à l'argent, sous-entendu, alors que tous les autres le sont, et bon. Donc, là, vous avez raison, effectivement, pour l'évaluation des magistrats, on bute sur un problème, c'est que l'exigence de perfection qui conduit à l'inamovibilité, etc. L'exigence de perfection étant en réalité toujours ressentie, il y a contradiction entre cette exigence et un modèle néolibéral qui finirait par se dire a-t-il expédié vraiment beaucoup d'affaires, comment chiffrer l'excellence judiciaire. Là effectivement, je vous suis tout à fait. Alors, sur le sur la motivation, ben oui, évidemment, le jugement divin ne peut pas être motivé, l'intime conviction du jury ne peut pas être motivée, de même que on ne peut pas faire appel, l'appel est impensable, il n'est pensable, l'appel, et si vous faites l'histoire des pays de common law, vous tombez d'ailleurs toujours sur la même chose, faire appel en pays de common law, ce n'est jamais invalider un verdict, hein, sauf à démontrer le parjure des jurés, auquel cas, alors à ce moment-là, oui, si on démontre que le juré a statué contrairement à sa conscience, alors là, il est parjure et on peut invalider le jury, le verdict et punir le juré. Mais sinon, la seule possibilité d'appel, c'est de dire que l'égalité des armes n'a pas été respectée, ou qu'on a produit devant le jury un élément qu'on ne devait pas produire, ou qu'au contraire, on n'a pas produit un élément qu'on aurait dû produire. C'est-à-dire que le rituel était inexact. On revient sur le schéma liturgique. Il y a eu une erreur dans la liturgie qui fait que le sacrement ne s'est pas accompli, auquel cas la vérité intrinsèque du rite n'existe pas. Mais l'appel a toujours été compris en common law dans cette perspective vérification de l'exactitude dans un ministère de la procédure que je propose d'analyser comme un ministère du rite. Et donc effectivement pour la motivation, là je crois qu'en effet, si les juges anglais accepte cette idée qu'un verdict doit être motivé, là, ils sont au bord de l'effondrement de leur système. Hein. D'ailleurs, ils sont, je les crois, au bord de l'effondrement de leur système. Je ne connais pas assez la situation en Angleterre, mais il est question d'un code pénal qui est en chantier et dont on ne sait pas s'il va arriver ou non. Ce qui veut dire on va revenir alors au problème de la norme comme préexistante par rapport au procès. Hein. Il serait question d'un droit à n'être pas jugé par jury, parce que ce qui a été consacré par la Constitution des États-Unis, c'est le droit au jury. Mais il suffirait de consacrer le droit du sujet à n'être pas jugé par jury pour que, immédiatement, la puissance religieuse du système s'effondre. Hein. Tout ça, ce sont des menaces. Ce sont des menaces qui sont, à mon avis, ressenties très vivement par les juges anglais et par l'opinion publique anglaise. Alors, sur quoi ça va-t-il déboucher? Je ne sais pas. J'espère au moins contribuer à analyser la situation, mais je n'irai pas au-delà. Alors, qu'est-ce qui reste comme question? Ben oui, alors la question sur l'aveu et la confession, ben je crois que j'y avais déjà un peu répondu. Il faut bien se rendre compte que le laboratoire de la procédure romano-canonique, c'est le conflit à l'intérieur de l'Église. C'est un conflit civil. Hein. L'essentiel des procès qui sont tranchés par la cour pontificale entre 1150, au moment où on commence à avoir des sources, jusqu'à 1215 et au-delà, on peut aller jusqu'à la rédaction des décrétales de Grégoire IX en 1234. L'essentiel des conflits sont en réalité des conflits conflits de type civil qui opposent à l'intérieur de l'Église des abbés et des évêques, par exemple. Ça, c'est un scénario qu'on rencontre très souvent. L'abbé de telle abbaye est en conflit avec l'évêque de son diocèse sur telle ou telle prérogative que l'évêque veut se réserver, que l'abbé conteste, etc. C'est-à-dire qu'on a affaire à un litige civil. Et à ce moment-là, il n'est pas question du tout d'user de la violence. Là, on tombe évidemment sur l'interdit de la violence à l'intérieur du clergé. Il n'est pas question d'user de la violence et pas question de mettre les clercs à la torture. Donc, la reine des preuves, à ce moment-là, ce n'est pas l'aveu, c'est le témoignage, en réalité. Le témoin intervient comme un tiers pour dire « Je sais bien de sources sûres, etc., que l'évêque est en possession de faire telle et telle chose. » Et puis, chacun produit ses témoins et on évalue les témoignages. Et en fait, l'aveu extorqué sous la torture, alors là, je crois que c'est postérieur, parce que ça apparaît peut-être dans la première moitié du XIIIe siècle. Ça, c'est à vérifier. Il y a pas mal d'études qui ont été faites sur les débuts de l'Inquisition, mais il s'en faut qu'on ait étudié tous les documents qui seraient susceptibles d'être exploités. Donc je sais qu'il y a des thèses pour le moment en chantier à ce sujet, mais l'idée que la procédure d'abord, qui est d'abord civile hein, chez les clercs, se transpose au pénal. Donc effectivement, on utilise tous les cadres processuels élaborés au civil, on les utilise au pénal. Et l'idée qu'au pénal, l'aveu va devenir la reine des preuves et peut être obtenu par la torture, étant entendu que la torture n'est pas administrée directement par le juge clerc, mais par un bourreau, un auxiliaire laïque, cette idée-là, à mon avis, est postérieure. Et c'est pourquoi je mets en garde contre effectivement les approches fusionnelles dont on est tout de même très sérieusement tenté. Il y a un engouement pour l'aveu, il y a la confession, l'obligation de la confession auriculaire généralisée en 1215 au moment où on interdit l'ordalie, et puis l'aveu pénal arrive immédiatement après. Mais jamais, même les inquisiteurs n'ont confondu la confession sacramentelle et l'aveu pénal, ce qui les obligeait d'avoir des contorsions invraisemblables.
Ma question portait moins sur l'aveu dit à la cour que la fonction de l'aveu en amont de ce qui peut se faire ou en dehors de ce qui peut faire dans les cours, et en tant qu'il influe sur une conception de la vérité, c'est-à-dire sur cette bifurcation que vous avez très bien montrée entre d'une part une vérité qui serait une vérité celle de la cour, la vérité niveau 1 si je me souviens bien, et puis une vérité qui serait une vérité des faits, et en fait qui reste à ce moment-là dans le fort intérieur de chacun. Et donc à partir de là, pour utiliser un terme de Nietzsche, oui, une forme de nihilisme qui s'installe, parce que c'est une vérité qui ne peut plus que se montrer tout à fait inopérante. Et puis, alors je fais peut-être un saut, mais le fait que dans le cas des jurys, il s'agit notamment de juger, de décider en âme et conscience, il y a là quelque chose aussi, il me semble, qui est un peu, qui ramène cette forme-là de vérité qui est devenue inopérante, introduite dans le fort intérieur et donc duquel on se défait et qu'on réintègre par une autre, d'une autre façon. Enfin, il me semble que c'est plutôt le rapport entre...
On ne réintègre pas. La distinction du fort interne et du fort externe est exactement contemporaine des phénomènes que j'étudie maintenant. On a l'impression que tout s'est mis en place à ce moment-là. Donc l'idée de la distinction du fort interne et du fort externe est mise en place par les clercs, et c'est dans les termes d'une rigoureuse séparation. Donc un clerc ne peut pas juger en âme et conscience. Celui qui juge en son âme et conscience, c'est le juré anglais. Ce n'est pas le juge ecclésiastique. Le juge ecclésiastique, d'ailleurs, il y a quantité d'adages qui dit iudex non secundum conscientiam judicare debet. Le juge ne peut pas juger selon sa conscience. Hein. Et là, il faut d'ailleurs distinguer deux choses. La conscience morale, parce que ça, le juge doit être habité d'une conscience morale. Hein, et même, c'est même absolument fondamental. Quand on dit qu'il ne peut pas juger selon sa conscience, c'est justement qu'il ne peut pas juger selon son intime conviction. Il doit juger, ça c'est la règle qui émerge vierge en procédure canonique, mais c'est vrai que je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais j'ai déjà été fort long et la matière est copieuse, mais en procédure canonique, il ne peut juger que sur la base de preuves produites au moment du procès, donc il ne peut absolument pas tenir compte de ce qu'il savait avant le procès. Ça c'est répété par toutes les sources canoniques. Tout ce qu'il sait avant le procès, il doit l'oublier au moment du procès, hein, et à partir de là, il apparaît un véritable droit de la preuve, mais je crois que c'est la première apparition d'un droit de la preuve en Occident, apparaît un droit de la preuve qui est une hiérarchie des preuves, c'est-à-dire quelle valeur accorder à un témoignage, quelle valeur accorder à un indice, comment faire des combinaisons d'indices et de témoignages pour arriver à la vérité judiciaire, étant entendu que cette vérité de fort externe est rigoureusement séparée d'une vérité de fort interne.
Mais je crois que c'est précisément là, cette bifurcation-là qui, en tout cas dans le cas de Foucault, c'est précisément à cette bifurcation-là qu'il arrive, c'est à cette bifurcation entre, de façon rigide, entre d'une part cette vérité judiciaire et la vérité sur laquelle il ne se prononce pas dans ce cas-là, et peu importe, et qui en même temps, c'est-à-dire que ce qui arrive avec là, c'est une sorte de, je ne vais plus sur le terrain philosophique, mais c'est une sorte de destruction ou de déconstruction ou de quelque chose qui est de l'ordre d'une vérité qui ne peut plus marcher sur ce mode-là, c'est-à-dire qui devient suspecte, qui devient dans tous les sens du terme. C'est un peu le. Donc, mais il me semble qu'il y a un. C'est surtout ce type de rapport. Le jeu de la confession et la forme du rapport à soi introduit une vérité qui. Une vérité qui ne peut plus fonctionner dans ce type de registre judiciaire. Voilà. C'est-à-dire dont on ne peut plus tenir compte et qui avait pourtant une importance si on regarde dans l'Antiquité. Dans lesquels il y avait d'autres formes de.
Oui,
voilà. Et donc.
Alors écoutez, en parlant de l'Antiquité, moi je ne vais pas rebondir sur ce que Foucault en dit. Là aussi on peut discuter sur son rapport entre l'examen de conscience et la continuité de l'examen de conscience à travers la confession. Mais à propos de l'Antiquité, la question du droit de la preuve. Donc quand je dis il n'y a pas de droit de la preuve dans l'Antiquité, posez donc la question à l'orateur suivant, puisque l'exposé suivant sera un exposé sur la cité grecque. Hein, et alors là vous allez vraiment voir fonctionner une justice citoyenne sans aucun droit de la preuve, mais il n'y en avait pas en droit romain non plus, hein, c'est-à-dire un système dans lequel l'intime conviction du juge fait le jugement absolument et à tout coup.
Eh bien, ce sera le mot de la fin, qui est magnifique. Merci encore.